Bonjour à tous, notre baroudeur Christian Cagnol nous amène aujourd'hui en Corrèze, la 32e émission de La Bougeotte. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors apparemment la Corrèze c'est riche en mégalithes, menhirs, dolmens, ruines, bref des villages en chaume. J'ai pu voir un maximum de choses sur cette belle vidéo, donc on commence par quoi ?
Tu as raison de faire toute cette énumération. Après le Maine, le mois précédent, inattendu, et dans la série des régions improbables, voici la Corrèze, surprenante, diversifiée et d'un patrimoine très riche. Et aussi, c'est un pays de nature vallonnée, un écran de verdure, propice à toutes sortes de randonnées, que ce soit pédestre avec plus de 200 sentiers de petites randonnées, des boucles équestres qui vont de 28 à 170 km, et des circuits de VTT que l'on peut faire en famille, à son rythme ou plus pour les sportifs, et une infinité de balades qui vous sortiront des sentiers battus. Donc voilà la Corrèze avec tout ce que tu as énuméré. Pour mieux s'en commettre de tout ça, ouais. Rien ne remplacera d'aller sur les nombreux points de vue, souvent accessibles en auto ou par une courte marche. Alors j'en ai retenu 3 ou 4, la Roche de Vic. Alors c'est un escarpement rocheux à 600 mètres d'altitude qui domine tout. C'est un ancien oppidum gaulois entouré d'un ancien fossé et d'une enceinte de roches d'environ 120 mètres de diamètre, recouvert de bruyères. C'est très beau, un panorama à 360 degrés, et c'est magnifique. Mmh. Et puis aussi vous avez le Sucomé, alors tout ça vous le trouverez facilement en cherchant sur des cartes ou sur internet.
Oui, et on rappelle aussi, je te coupe, on rappelle aussi qu'en fin de ta vidéo, tu renommes les sites.
Exactement, voilà, ça c'est plus une facile. Nouveauté. Ouais. Et donc je vous incite aussi à aller voir ma vidéo qui est sur le site Radio Galaxy, oui. Mais aussi sur mon site perso Rando VTT Vidéo que vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude, et vous retrouverez toutes les images de l'émission qu'on est en train de faire. Et à la fin de la vidéo, comme tu dis Francis avec justesse, j'énumère tous les endroits avec les communes dont vous retrouverez donc la Roche de Vic qui est à Albussac et maintenant le Sucomé qui est à Chaumeil. Et c'est une altitude plus haut, là, on est à 900 mètres d'altitude. Et là, vous avez toute la montagne Limousine et le plateau des Mille-aux-Vaches à vos pieds. C'est fabuleux. Alors maintenant, un autre site dans la série, c'est le site de la Roche d'Alassac. C'est plus bas, 341 mètres d'altitude. Là, on domine la vallée de la Vézère. Et c'est un panorama extraordinaire. Et puis, à côté d'Alassac, vous avez une chapelle au village qui est en dessous. Tous les vitraux sont de Chagall à voir. Et la chapelle est ouverte et il faut aller voir. Comme tu as cité en début, des menhirs, des vestiges, tout un tas de trucs. Là, maintenant, on a aussi un riche passé en vestiges. Par exemple, le fanum gallo-romain des Jaillants, qui est à Pradines. C'est des vestiges qui sont du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est deux temples construits à un col, en pleine forêt, au carrefour de routes antiques, qui étaient pour vénérer les forces de la nature, aussi bien celtes que romaines. Ça a été utilisé jusqu'au 3e siècle. Les ruines de l'un d'eux sont donc encore visibles. Un a disparu, l'autre, on voit les vestiges. C'est certainement un incendie qui a été à la cause de l'abandon. Et ce qui est étonnant de ce lieu, c'est la trace d'une civilisation disparue en plein milieu de la forêt. À l'origine, c'était donc des temples celtes, en bois, en forme de rectangle. Et ça, c'est devenu un monument. Au centre, il y avait la partie réservée aux prêtres avec la statue de la divinité. Et puis autour, un déambulatoire qui est où circulaient les dévots. Alors, donc ça, c'est le fanum gallo-romain des Jaillants. Et non loin de là, vous avez les ruines gallo-romaines des Cars. Alors là, on est sur la commune qui s'appelle Saint-Merd-les-Oussines. Et c'est un site gallo-romain du 2e siècle qui est constitué d'un ensemble funéraire et d'une villa, non loin de là. On distingue un escalier monumental ainsi que le podium. Et à 200 mètres de là, ce qui reste d'une villa d'une quinzaine de pièces qui était somptueuse, avec des canalisations en plomb qui alimentaient en eau potable, une piscine chauffée, diverses salles décorées. Bien sûr, tout ça, ça n'y est plus. Il y a des panneaux. Et il y avait des enduits peints, des mosaïques. Avec les Jaillants, dont on vient de parler, on a la démonstration que la civilisation gallo-romaine était vraiment très bien implantée dans le Limousin. Alors pour changer, tu l'as cité tout à l'heure, on a des tranches de vie. Par exemple, ces fermes médiévales à Saint-Julien-aux-Bois. Alors, les bâtisses et les maisons, la construction a été à l'identique des chaumières, aux murs de pierre et toits de chaume. Et autour de ces vieilles demeures, on a des vergers et des jardins qui aident à la compréhension de la vie paysanne au XVe, les us et coutumes du Moyen-Âge.
Des vieilles croix aussi ?
Oui, sur le cimetière.
Voilà.
Voilà, ouais. Oui.
Ils sont typiques. Magnifiques.
Oui, faites observer, je vois. Et alors, c'est un bon moyen de préservation, ce que fut la vie de la région à l'époque méconnue, dans cette région qui s'appelle la Saintrie. À cette époque, tout le monde était paysan et tout le monde payait des impôts. Le seigle, les châtaigniers, le sarrasin, ça constitue l'alimentation. Les maisons avaient un plafond très bas. On vivait à plus de 10 dans 30 mètres carrés, souvent avec les animaux. Tout ça, on peut visiter, on se balade entre les chaumières, dans les chaumières. Elles sont comme si elles avaient été abandonnées à la fin du Moyen-Âge. Et puis, en haut, la chapelle qui domine le village, et à côté, le cimetière dont tu as évoqué les croix. Il faut savoir qu'une bulle papale avait fixé la distance maximum de 50 mètres maximale entre l'église et le cimetière. On ne pouvait pas aller plus loin. Ce qui fait que le cimetière était rapidement complet et ça réduisait les emplacements à 50 mètres. Alors, en cas de nécessité, il était possible de déterrer les défunts et de placer les restes sur une sorte d'étagère à la vue de tous. On la voit, d'accord. L'étagère.
Ah bon,
et il y a des ossements là pour bien... Alors on apprend quantité de choses en traversant ce village, quantité de choses sur la vie au Moyen-Âge, aussi sur son climat. Par exemple, il a connu des variations. Les périodes chaudes, en 1420, 23 et 73, le muguet, il avait fleuri au mois d'avril. Mais il y a eu beaucoup d'autres périodes plus froides. Par exemple, l'hiver 1468 à Paris, le vin se débitait à la hache et on partait avec les glaçons.
Non.
Oui, c'est ça. Alors, le mois dernier, je vous ai présenté l'unique château fort à Motte de l'an 1000. Maintenant, c'est un village de l'an 1000 aussi.
Carrément.
Un plongeon dans le passé, à voir vraiment aussi. Autre lieu. Alors, des lieux peu connus, là maintenant, c'est, je vous amène à Aubazine. Je ne connaissais pas avant d'y aller. Pourtant, ça a été un haut lieu de la vie monastique avec une abbaye cistercienne du XIIe. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est un endroit de balade où beaucoup de gens y vont, c'est surtout la conception de son canal, qu'on appelle le canal aux moines, qui n'est pas très long, 1500 mètres de long, qui va nous intéresser. Alors, pour irriguer le jardin, alimenter le vivier, faire tourner trois moulins, les moines ont creusé, ont amené l'eau. Alors, ça représente un certain savoir-faire et une prouesse technique digne d'intérêt. Imaginez un peu ces hommes, presque à main nue, construire un monastère immense, dans un endroit inhospitalier, creuser leur canal, contourner des falaises, tout en surveillant la pente. Et 9 siècles plus tard, le témoignage est toujours bien là. Ça fait quelque chose. Sur ma vidéo, vous allez voir un ruisseau bucolique. Je n'ai pas pris le temps de faire les 1,5 km aller et retour. C'est bien dommage, tu vas me dire, que je suis feignant.
Mais je dirais que
j'ai fait autre chose.
Voilà.
Voilà, c'est bien. Mais enfin, bon, si vous y allez, allez à l'endroit intéressant au moment où le canal passe au pied de la falaise et où on voit vraiment le travail des moines.
Et on voit des carrières peut-être de marbre ou autre, c'est pas un rapport avec ça, non ?
Non, je peux quand même t'en parler. Ce sont les carrières du puits de Pauliac, c'est du granit rose, et ça nous concerne un peu, parce que c'est le granit rose que l'on trouve place du Capitole, à Toulouse. Ils viennent de là.
Ils viennent de là, ok.
Alors on ferme la parenthèse quand même, je vais continuer toujours sur ce lieu à Aubazine, et je vais vous raconter une courte histoire, mais peu connue. En 1895, un père se retrouve veuf, il dépose ses trois filles, au bon soin des religieuses, à l'orphelinat d'Aubazine. Il s'agit de Coco Chanel et de ses sœurs. Coco Chanel, qui a certainement été marquée à jamais par cet épisode, son style strict, épuré, les couleurs neutres, ça a certainement trouvé la source dans cette communauté. Voilà une petite histoire. Dans la forêt, au-dessus d'Aubazine, il y a ce qu'on appelle la maison de l'ermite. En réalité, il n'était pas tout à fait ermite, il vivait en couple avec sa femme, de 1900 à 1918. On arrive, on croit que c'est un village médiéval. Non, non. C'est un ensemble de constructions de pierres plates montées sans ciment ni mortier par l'ermite lui-même. Il y avait une maison d'habitation, une écurie, un grenier, un four, deux pigeonniers, des lapinières, ou si tu préfères, des clapiers.
Oui.
Un hameau lilliputien, l'œuvre d'un seul homme qui a défriché tout le coin. Par contre, c'est pas facile à trouver. Alors sur ma vidéo, allez voir les images de ça, c'est typique. des lieux maintenant qui ont connu l'heure de gloire, avant de terminer en musée. Pour commencer, la forge de Savignac-Lédrier, qui a été créée en 1521, c'est la mémoire du fer. Une des plus grosses forges à bois, capable de produire de la fonte, du fer, et qui tournait grâce à l'énergie hydraulique. Malgré l'arrivée du coq, qui annoncera la fin de beaucoup d'autres sites vers le milieu du 19e siècle, le haut fourneau va continuer de produire jusqu'en 1930. Et un atelier de production résistera jusqu'en 1975. Il fabriquait ses pointes en forme de cavalier pointues au debout quand on voulait planter un grillage contre un arbre.
Bien sûr, oui. Ah ouais, ok, ouais.
Les cavaliers, ils produisaient ça. Et mieux, ils fabriquaient, cet atelier, les clés pour ouvrir les boîtes de sardines. Alors, ça c'est un schmick-blick pour les nouvelles générations, parce que maintenant, il suffit de mettre le doigt dans l'anneau et de tirer.
Mais avant.
Avant, il ne fallait pas oublier la clé. Donc, ça, ce sont les forges de Savignac qui sont maintenant musées avec guide et que l'on peut visiter. Alors donc, tout près de là, la papeterie de Vaux, elle fait tourner ses meules, les cylindres, les bobines, de 1861 à 1968. Une centaine d'années donc. Elle donnait du travail à 35 personnes, hommes, femmes, qui travaillaient à mi-temps. C'est-à-dire deux équipes qui travaillaient 12 heures. Tu te reposes 12 heures, tu travailles 12 heures. En moins de 3 jours, tu as fait 35 heures.
Tu appelles ça du mi-temps.
Voilà. Alors, ça produisait pas n'importe quoi. C'était spécialisé dans le papier de boucherie. Ce papier couleur craft, là, papier craft, aux couleurs naturelles, sans emballage, pas de colorant, ça servait dans le domaine alimentaire à emballer. Je ne sais pas si ça se fait encore. Alors donc, et la pâte, qui était fabriquée dans un moulin pas très loin, il était livré jusqu'en 1968 par un charreton tiré par une paire de bœufs.
D'accord.
C'était pas trop de voie de circulation. Par contre, bon, l'expédition du produit fini se faisait par une petite micheline. Et l'usine de Vaux, donc cette papeterie de Vaux, elle est la dernière en France et en Europe qui présente la chaîne de fabrication intacte de l'époque. D'accord. Alors, c'est une chaîne très simple, il n'y a pas d'électronique, alimentée par de l'eau, une roue à aube, et c'est des planches, du bois, de la ferraille, on pourrait la refaire retourner, elle pourrait retourner. Voilà. Un autre lieu, dans un autre secteur d'activité, les ardoisières de Travassac. Ici en Corrèze, on commence l'exploitation des ardoisières au XVIe siècle. Avant ça, les toits, c'était des toits de chaume. Au début du XXe, les ardoisières sont à leur apogée. Elles emploient plusieurs centaines d'ouvriers. La guerre de 14-18 provoque le début du déclin par la pénurie de main-d'œuvre. Puis, les produits couvrants que l'on connaît, les tôles d'Everite, ou dans ce genre-là, ça a participé au déclin. Puis enfin, la concurrence espagnole, avec une main-d'œuvre moins chère, ça signale la fin. Actuellement, sur les permis de construire qui sont déposés, il n'y a pas plus de 1% des toits qui sont en ardoise. Pourtant, la production continue, encore de nos jours, puisque ces ardoises trônent fièrement sur certains édifices célèbres, comme, par exemple, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. C'est l'ardoisière de Travassac qui a fait ça. Alors, pourquoi cette ardoise, malgré tout, c'est une couverture reine ? Eh bien, elle est inaltérable, elle est parfaitement imperméable et résistante au choc, donc à la grêle. Les toits sont garantis plus que centenaires. Une carrière où les mineurs extraient à l'explosif de gros blocs de schiste, puis intervient le fendeur qui partage chaque bloc en morceaux plus petits. Ensuite, c'est le cleaver qui sort une feuille d'ardoise. Et pour terminer, le tailleur qui donne la forme ronde, carrée, ogivale et qui la perce pour la faire tenir sur le toit. Il faut une tonne de schiste pour obtenir 200 kg d'ardoise. Toutes les opérations manuelles nécessitent un grand savoir-faire. Aucune machine n'est capable de remplacer les ouvriers. Les expériences ont été faites, c'est absolument impossible. Ces carrières de Travassac qui sont actives, ce sont les dernières en France en activité.
Qu'on garde ce savoir-faire.
Ben oui, on a déjà perdu toutes les forges et toutes les papeteries. Il nous reste ça. Puis il n'y en a pas beaucoup en France, hein, mais c'est la seule. Oui.
Ouais.
Le sentier de la résistance maintenant. Il ne faut pas oublier. La Corrèze a été le centre de la résistance.
Il ne faut pas l'oublier ça. Ouais.
Alors, à Sainte-Féréole, vous avez un chemin de mémoire qui est balisé et avec des panneaux explicatifs de 4 km qui vous conduit au premier camp de réfractaires qui se sont ensuite transformés en maquis de l'armée secrète en 1943. Le STO, le service de travail obligatoire créé en février 1943, envoie entre 600 000 et 650 000 hommes nés en 1920, 21 et 22. Ils seront déportés en Allemagne. Il y a eu des réfractaires. On les a estimés à 200 000. Ils vont se résoudre à une vie clandestine et 50 000 d'entre eux rejoindront le maquis. Dès février 1943, les premiers réfractaires donc trouvent refuge dans la forêt de Solières, à la cabane du Trou du Loup que je montre sur ma vidéo. Une cabane en bois. C'est un abri sous roche, pas très confortable, humide, avec une petite arrivée d'eau, mais qui était choisi quand même pour ces raisons qu'il offrait l'importance du manteau forestier, pour pas qu'on les voit, des chemins étroits, pour éviter que l'arrivée des Allemands blindés ou camions, la proximité d'une source, c'est vital, un ruisseau. Et puis aussi la promesse de pouvoir compter sur la solidarité, l'aide et la complicité d'une grande partie de la population, ne pas être dénoncé. Et cette population qui était de plus en plus hostile à la politique du gouvernement de Vichy. Et alors ce refuge, il va se transformer peu à peu en camp de maquisards, voués au combat. Tous sont mobilisés autour d'un même idéal, de se battre pour libérer le territoire national, chasser l'occupant nazi et rétablir les libertés. Un moment d'histoire important. Alors tu me parlais tout à l'heure d'un petit train.
Oui, c'est quoi ce petit train?
Alors ce petit train porte un nom, c'est le Transcorésien. Ah. C'est un petit train, un tramway à vapeur qui a relié à 20 km/h entre Tulle et Ussel. Il s'arrêtait dans toutes les gares, mais aussi un peu partout. Il suffisait de faire signe au chauffeur. Il a fonctionné de septembre 1913 à décembre 1959, presque 50 ans. Presque 50 années de souvenirs et d'histoire. Il est maintenant entré dans la légende. Alors, les gens de la ville l'appelaient le taco. Mais pour ceux du coin, ça restait le train qui a rythmé la vie de cette région. Il a été mêlé à tous les événements de la vie locale. Mariage, foire, pèlerinage, vie quotidienne, résistance. Il était pour certains un lien privilégié, voire unique, avec le monde extérieur. Il faut se l'imaginer en automne avec les feuilles sur les rails qui faisaient patiner la loco. Ou encore en hiver, là ce sont les rails gelés. Et à l'avant de la loco, il y avait ce qu'on appelle les boîtes à sable, qui faisait couler un petit filet de sable sur les rails pour empêcher que ça patine.
D'accord. Ah,
seulement,
pas mal, ça.
Les boîtes à sable, elles gelaient aussi. Donc pas de sable. Et le train, il redescend en marche arrière, il redescend la côte.
C'est une sacrée époque, ça.
Ah oui. Ou alors, la loco, elle patine. Du coup, on épuise toute sa vapeur et on bouffe tout le charbon. Alors le mécanicien, parfois, eh bien, il va laisser les wagons. Il va partir tout seul avec la loco, chercher de l'eau, du bois, un peu partout, dans les mares, du bois de chauffage qu'il va trouver sur le bord. Il aura transporté des voyageurs, des victuailles, le courrier, les matériaux, le bois de chauffage ou d'œuvre, des poteaux téléphoniques, les étés pour les mines, mais aussi les engrais, les semences, les machines agricoles. Tout ça, ça va contribuer à l'amélioration des cultures. On voit sur ma vidéo un viaduc.
Exact.
C'est le viaduc des Rochers Noirs. Il a permis le franchissement d'une profonde gorge par un pont suspendu. Le tablier est à 92 mètres de hauteur et la longueur, c'est 170 mètres. Un travail de titan à l'époque.
Sacré ouvrage. Ouais.
Il n'y avait aucun outil motorisé. Le principal outil, c'était le treuil à main, il suffisait de tourner les manivelles. Voilà. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Heureusement, un programme de restauration a sauvé quelques petites gares, citernes, mais aussi le wagon-grue. C'est le seul wagon qui reste. Tout le reste, les rails, tous les wagons, ça a été vendu. Alors le wagon-grue, il est à la gare de Chirac-Bellevue. Il permet ainsi de perpétrer son souvenir. Le Transcorésien ne roule plus, mais perdure dans les mémoires. C'est une belle visite, ça.
Ah, d'accord, à voir.
À voir. Alors qu'est-ce que je vais retenir encore? Eh bien, outre la cité du cheval à Pompadour, j'ai fait un petit saut, on voit une image ou deux, mondialement connue, mais je vais retenir deux villages. Celui de Ségur-le-Château, qui possède un riche patrimoine bâti, avec des maisons médiévales, renaissance, des petites rues. Et puis la rivière Auvézère, qui entoure les vestiges du vieux château. Un bon coin de pique-nique. Un village pour flâner et pour peindre aussi. Et enfin, le deuxième village que je vais retenir, c'est celui de Saint-Bonnet-la-Rivière. Des maisons en grès rouge, qui font penser à Collonges-la-Rouge. Et surtout une église du XIe siècle, en rotonde, qui s'inspire de l'église du Saint-Sépulcre. Pour terminer notre émission...
Le VTT.
Une belle rando. vraiment.
Oui, un sous-bois, pas mal, des oui. côtes, des descentes.
Ah oui, c'est bien, oui. Boueux. La Corrèze, c'est bossu, hein, c'est verdoyant et c'est bossu aussi. Alors, à vous aussi d'aller parcourir ces chemins et de courir dans ce que j'ai appelé le paradis d'hiver.
Et enfin,
l'aquarelle de Nadine, très réussie, qui représente le trésor de Gimel-les-Cascades, une chasse reliquaire émaillée du 12e, contenant les reliques de Saint-Étienne. Tiens, voilà un autre village intéressant. Des trésors, des cascades, des maisons typiques. Oh, stop, on va arrêter. C'est plein.
Il y en a partout.
Donc voilà, l'émission se termine. Et le mois suivant, la prochaine émission, le titre de ma vidéo, c'est « Des bouts de laine ».
Et alors ? Tu ne nous en dis pas plus.
Ben, je ne vais pas te dire... Si, je vais donner un indice, mais bon. 850 km à faire. Voilà. J'en dirais là quand même, vous allez trouver.
Ça, c'est toi
qui... Des bouts de laine. Ça te dit quelque chose, non ?
Un mouton.
Je vous dis à bientôt, passez un bel été. Bougez.
Mais bougez.
En France, merci Francis.
Merci, au mois prochain.
À bientôt.